Et bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Mistral. On est ravis d'accueillir un grand ami de notre radio, Raphaël Humbert, saxophoniste de jazz, directeur artistique de la compagnie Nine Spirit, chef d'orchestre, compositeur et en ce moment compositeur associé au TDB. Bonjour Raphaël et très bonne année 2019.
Meilleurs vœux.
Bonne année à tous, à tous les auditeurs de Fréquence Mistral. C'est vrai que je suis ravi d'être là, ça fait longtemps que je n'étais pas venu à la radio, dans votre radio qui est importante pour nous.
Et cette année, vous revenez en tant que compositeur associé au TDB avec votre projet Créolisons le monde. Comment ce projet s'est-il concrétisé et quel programme proposez-vous pendant ces 2 ans de collaboration?
Ah, alors je vais essayer de faire concis et rapide parce que c'est quand même c'est une belle histoire. Alors justement, vos auditeurs peut-être m'ont déjà entendu sur Fréquence Mistral. Moi, j'ai habité longtemps au Raison et Fort-Calquier pendant une dizaine d'années. Donc c'est vrai que c'est un territoire, là je parle plus du sud, du 04, qui m'est familier. Le Hautes-Alpes, c'était moins le cas, c'est vrai. Vous savez, c'est comme entre Marseille et Avignon, parfois des frontières invisibles, des murs invisibles qu'il faut franchir. Le 05, ça nous paraissait très très loin à ce moment-là. En fait, l'Altitude Jazz Festival, que vous connaissez très bien, m'invite une première fois déjà dans la programmation, ce qui était c'était déjà une belle aventure. J'étais venu avec Music is My Home, autant que je me souvienne la première fois. Puis très rapidement, avec Samuel, Simon, toute l'équipe, ils m'ont proposé d'être le parrain du festival. C'était l'année dernière.
The Godfather,
c'est tout à fait ça, voilà. Voilà, donc j'ai mis mon costume 3 pièces. Je pouvais pas mettre d'agomina sur les cheveux parce que j'ai plus de cheveux en fait. Donc là, c'était foutu. Et c'est la première fois qu'on me le proposait, qu'un festival de jazz me proposait de cette manière-là. Ils sont en train d'inventer la façon dont les festivals de musique, particulièrement les festivals de jazz, comment ils vont devenir à l'avenir. En fait, ils inventent le festival du futur, très participatif, des grosses équipes de pas forcément que de bénévoles, mais de gens qui travaillent ensemble collectivement. C'est pas le festival d'un programmateur avec un agent qui font d'ailleurs qu'en France on a l'impression parfois de voir toujours un peu le même festival quand l'été notamment. Je ne donnerai pas de nom, même si c'est le matin que je suis un peu fatigué. Et chaque fois en plus je regardais la programmation, c'était très diversifié, ouais. Au niveau du style, au niveau des origines des musiciens, des gens d'ici, des gens de loin. Enfin, vraiment pour moi c'est la façon de faire de assez extraordinaire, et grâce à cela je découvre le théâtre du Briançonnais. Je découvre un lieu, je découvre une équipe, je découvre des gens, et puis je découvre une ville et une région que en fait je connaissais très peu. Alors, il se trouve qu'en plus moi je fais pas de ski, j'aime pas les sports d'hiver, donc j'avais aucune raison a priori pendant toute une période de l'année de venir à Briançon, et en fait c'est devenu chez moi. Je me sens chez moi. En plus, moi, j'ai une vie un peu. Je navigue toujours entre Aix-en-Provence et Paris. J'habite beaucoup plus à Paris maintenant. Et en fait, on me guide à ce moment-là, au moment de faire le festival où je suis le parrain. On commence à parler avec Franck-Éric Retière, donc le directeur du TDB, avec Samuel. On me sollicite en me disant, tu sais qu'il y a un dispositif qui est financé par le ministère de la Culture et la SACEM, qui est compositeur associé à un lieu pluridisciplinaire. Donc, il y a une obligation que le lieu qui accueille ce compositeur associé soit un lieu pluridisciplinaire. Ça ne peut pas être un lieu exclusivement de musique. C'est justement pour en fait faire en sorte que les théâtres français, on est quand même un pays du théâtre, culture française, c'est la culture du théâtre. Et la musique est souvent un peu le parent pauvre de beaucoup de scènes nationales, de beaucoup de théâtres. On en fait un petit peu comme ça, et ça c'est justement déjà le constat, c'était de voir l'association entre le théâtre et le festival, c'est assez extraordinaire de voir comment ça fonctionne. Puis le reste de l'année, le théâtre du Briançonnais a aussi une programmation musicale qui est de très haute volée. Quand on me propose ce truc-là, on me dit mais il faudrait que tu le fasses avec une scène nationale, il faudrait que tu le fasses, ou alors avec par exemple le festival de jazz sous les pommiers à Coutances fait ce dispositif avec un compositeur en résidence. En ce moment, c'est Anne Passeo qu'on connaît bien ici à Briançon. Ouais. On était venu avec d'ailleurs au festival l'année dernière, puis elle revient cette année au festival. Ah oui, il faut que tu le fasses. Et je dis non, ce qui est intéressant dans le dispositif, c'est d'aller dans un endroit où il y a une vraie équipe, il y a une vraie émulation, mais des endroits qui sont un petit peu oubliés de la carte culturelle française. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et Franck-Éric, il a fait tilt tout de suite, quoi. Et on a défendu le projet. On a monté vraiment un beau projet, notamment sur le Créolisons le monde, c'est ça. C'est-à-dire que on est dans un endroit qui est toujours défini comme un endroit fermé, alors qu'en fait tout le monde passe ici. Et puis vous avez bien vu, il y a la problématique des migrants, il y a l'histoire même de cette ville et de cette région. C'est à la fois cette île montagnarde et en même temps ce lieu de passage. Je trouve ça absolument génial. C'est des choses que j'ai retrouvées moi dans le sud des États-Unis. Et on présente ça devant le jury de la SACEM, au ministère de la Culture. Et Franck-Éric et moi, c'est peut-être la première fois qu'on foutait les pieds dans ce bureau-là. Moi, j'étais très impressionné. On était à côté de, bon, ça sortira pas d'ici, hein, mais on était à côté des grosses scènes nationales avec des musiciens super connus et tout, musiciens de musique contemporaine et tout. Et là, on apprend, apprend très rapidement qu'on l'a eu, en fait. Donc c'est un financement, c'est l'obligation d'une présence pendant 2 ans, pendant 2 saisons, avec différentes choses. Donc on a ouvert le bal, si j'ose dire, en novembre dernier, avec un bal dans le foyer du théâtre, qui était une salle de bal d'ailleurs. Donc en fait, on est dans la vérité historique la plus totale. C'était très bien. C'était vraiment une belle soirée. Et ça aussi, ça, je peux le dire. C'est le public d'ici, on leur a proposé de danser sur, ça allait du free jazz au disco, et il y avait 400 personnes qui dansaient en permanence, ce qui n'est pas le cas ailleurs non plus. Enfin, il y a une sorte d'envie de partage et de faire les choses, et de les faire sans a priori, sans... voilà. Donc c'est, en fait, c'est aussi ce public-là, et c'est ces rencontres-là qui m'intéressent ici. Donc, maintenant, on est en résidence en ce moment pour la création qu'on va faire pour l'ouverture du festival le 19 janvier prochain autour d'Oraison, j'en dirai peut-être quelques mots. On a des tournées aussi dans les chapelles, ça sera en octobre et en avril, donc automne et printemps, notamment avec le Black Coltrane et notamment à l'abbaye de Boscodon. Je réalise beaucoup de rêves avec ce dispositif. C'est de jouer à Boscodon, par exemple, ou de chanter du Michel Delpech, ce que j'ai fait, Florence, pour en témoigner. Hein, j'ai chanté du Michel Delpech en novembre dernier. Voilà, je réalise des rêves qui sont en moi depuis très longtemps. Et puis, des différentes créations, participation aussi active au Sillon Chanté, le 21 juin prochain, donc au Parc de la Chape, où on va faire chanter 1300 gamins des écoles du Briançonnais. Voilà. Et c'est une sacrée aventure. Et l'année prochaine, d'autres idées qu'on est en train de mettre en place, tout ça avec cette équipe, voilà, à suivre.
Pendant ce temps, vous vivez ici à Briançon ?
Alors pas pendant 2 ans, pas à temps plein. Okay. D'ailleurs, déjà, je pense que ce serait une raison pour voilà, c'est les gens d'ici, à mon avis, ne me supporteraient plus au bout de 2 semaines. Donc
oui, là, ça fait 10 minutes.
Voilà, vous avez vu, hein ? Imaginez pour l'équipe du théâtre. Je squatte leur bureau, je leur parle pendant 2 heures et tout ça. Vous voulez de l'échange, là ils en ont, il y a pas de problème. En fait, je viens régulièrement, en fait, ouais, voilà. Ça peut être pour des réunions, ça peut être pour des répétitions, des masterclass. J'en ai fait beaucoup, notamment au conservatoire. Vous avez un très beau conservatoire de musique avec des profs assez géniaux. Je pense à Damien, qui est le prof de sax, un vieil ami du conservatoire de Marseille. On se connaît depuis très longtemps. Donc, en plus, j'ai retrouvé des amis que j'avais plus depuis longtemps. Yermine, qui fait toute la musique traditionnelle. Il y a aussi quand même un
violon.
Voilà, et c'est assez rare aussi de voir une ville qui... Il y a un fil conducteur qui me paraît intéressant. C'est une découverte, moi, de ce dispositif. C'est le Bac Hubert, par exemple. Voir qu'il y a une région où il y a des traditions. C'est incroyable, en fait. Quand j'ai vu ça, moi, j'ai assisté au Bac Hubert le 16 août dernier, qui fait de l'ethnologie et de l'ethnomusique musicale. J'étais plus dépaysé à Pont-de-Servière le 16 août qu'au fin fond du Mississippi en train d'écouter du gospel. C'était assez incroyable parce que c'est assez unique, en fait. Il y a ces choses-là. Il y a des profs de cor des Alpes. Ça, rien que ça, je trouve ça génial. Donc il y a quand même un mélange culturel ici, une richesse qu'il faut... alors je dis pas que le but, c'est pas de dire on va l'améliorer et tout ça, non, c'est juste en l'utiliser, rencontrer et voir ce que moi, en tant que compositeur... Alors quand je dis compositeur, je suis jazzman. Donc il y a une part de composition, mais aussi l'impression, c'est pas le compositeur au sens musique classique ou musique contemporaine, mais il y a quand même, justement, le jazz est un élément de rencontre, d'improvisation, où on peut réunir pas mal de traditions différentes. Donc c'est ça qui m'intéresse.
Comme vous l'avez dit, l'Altitude Jazz ouvre ses portes le 19 janvier, donc au Théâtre du Briançonnais, où vous allez présenter votre création si proche d'Oraison. Quelle histoire raconte-t-elle en musique, votre création ?
Alors, donc moi, j'ai habité 5 ans à Oraison, une ville des Alpes-de-Haute-Provence, une ville qui est vraiment dans la vallée de la Durance, qui était la ville de l'amande, en fait. C'est toute l'industrie de l'amande, des plateaux de Valensole et tout, était au 19e, début 20e, gérée par cette ville. C'est une ville un peu particulière, très attachante de certains aspects, puis qui a toutes les problématiques qu'on vit en ce moment, avec notamment les gilets jaunes, avec le sentiment d'abandon des zones périurbaines. On est en plein dedans. C'est un bon exemple de ce qui est montré et ce qui explose en ce moment. Et moi, c'était il y a 10 ans, j'ai vécu ça. Voilà, je me suis installé il y a 10 ans là-bas, j'ai vécu 5 ans et on sentait ce truc-là de façon très forte, alors même que c'est une ville qui a une culture et une histoire très profonde. Et ce qui était frappant pour moi, c'est de voir la dichotomie totale entre la vie des gens actuellement, où on a l'impression qu'ils sont déracinés, en fait, et une ville qui a une histoire et même une particularité unique en France, c'est qu'en 1921, au moment où en France toutes les communes se posent la question de comment on conserve la mémoire de tous les morts de la Grande Guerre, c'est la seule ville de France qui décide de donner les noms de rues à tous les morts de la Grande Guerre. Donc vous vivez dans un monument aux morts, quand même. J'arrive à Oraison, je m'installe, impasse Damien Comte. Je me dis, qui c'est ce Damien Comte? C'est un jeune gars qui est mort à 19 ans. D'ailleurs, j'ai un petit trou de mémoire, mais je crois qu'il est mort en 1915, pendant la guerre. Et en fait, déjà, il y a un côté quand même assez unique. un peu spécial quand même, le rapport à la mémoire, le rapport à la... Alors en plus une ville qui s'appelle Oraison. Oraison, c'est la prière, c'est l'Oraison funèbre. Donc il y a tout un mélange sémantique qui, moi, déjà, je trouve le symbole et le hasard fait bien les choses quand même. Et moi, je m'intéresse beaucoup au spirituel dans la musique. Donc il y a... D'ailleurs, à Paris, quand j'ai la Radio France et je disais que j'habitais à Oraison, les gens étaient morts de rire. Ils disaient, toi, tu travailles sur le sacré, tu habites à Oraison. J'ai toujours eu envie de travailler sur cette idée de mémoire, d'autant plus que les... Avant 1921, les rues n'avaient pas de nom. C'était la rue de l'église. Ouais. Jusqu'à maintenant, 2019, les gens continuent à dire bah, c'est la rue de l'église, parce qu'en fait, il y a un truc qui est intéressant avec la célébrité. C'est quand vous habitez place Jean Jaurès ou rue Général de Gaulle, vous vous en souvenez. Mais ouais. Quand vous habitez rue Eugène Revest, qui pourtant est le grand-père d'un voisin et tout, qui est mort à la guerre, vous vous en rappelez pas. Donc il y a un rapport à la mémoire qui m'intéresse. Or, le jazz, c'est une musique de mémoire aussi. Et en plus, ce qui est intéressant là-dedans, et ça, c'est vraiment aussi un rêve que je réalise, parce que c'est un projet que je porte depuis 10 ans, en fait. Alors, j'avais fait un très beau truc à l'Opéra à Marseille, où on avait joué avec la sirène. Tous les premiers mercredis du mois, il y a la sirène, on avait fait une oraison, justement, à ce moment-là. Mais ça avait duré 10 minutes, et depuis... Personne n'en voulait, en quelque sorte. Donc là, en plus, moi, j'ai complètement carte blanche. Je peux proposer ce que je veux. Ils peuvent dire oui. Donc, j'en profite. Et de vraiment terminer ce travail, qui est un travail de... Vous savez, quand vous êtes compositeur en jazz, vous devez proposer de la matière à improviser. Et vous devez proposer de la matière avec, pour moi, c'est important, avec de l'inspiration. Il faut que les musiciens et le public comprennent d'où vient l'inspiration et qu'ils la ressentent, notamment vis-à-vis de la sensation, de la sensibilité et de l'émotion. D'autant que là, ça va être purement musical, il n'y a pas de texte. Donc ça va être juste un moment poétique sur cette évocation, sur cette mémoire, sur tout ce que ça représente. Ça va aller chercher d'ailleurs beaucoup plus loin. Mais je trouve ça intéressant plus de le faire à Briançon, d'autant plus intéressant... Bah, qu'à Oraison, quand j'en avais parlé avec les édiles là-bas, ça les intéressait pas plus que ça. Et j'en fais pas, je peux le comprendre d'ailleurs, c'est pas un problème. Quand je l'avais fait à Marseille, ils étaient pas venus. C'était officiel, c'était à l'Opéra de Marseille, devant l'Opéra. J'avais envoyé une invitation et j'avais même pas eu de réponse. Et je pense que d'ailleurs, c'est une patate chaude pour eux. Je pense que la plupart des habitants ou la mairie, les élus préféraient avoir une ville avec, comme je vous dis, une place générale Leclerc, quoi. Ce serait quand même plus facile. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse pour en faire un événement poétique, en fait. Et je trouve ça vachement bien de le faire à Briançon, qui est quand même une ville chargé au niveau de l'histoire aussi, mais qui, pour le coup, et c'est l'impression que j'ai, a quand même un rapport à cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait du patrimoine militaire? Comment on raconte l'histoire des différentes frontières, des différentes guerres qui ont eu lieu ici? Et moi, je suis un pacifiste d'un côté, mais je trouve l'histoire intéressante quoi qu'il arrive. Donc c'est ça qui est important pour moi.
Et vous êtes 4, c'est scène, 5 quatuors.
Alors comme on fait du jazz, on dit quartet.
Quartet. Voilà. Avec qui avez-vous collaboré sur cette pièce?
Alors en fait, c'est là aussi toujours dans l'idée de renouer avec mes rêves et mes envies. Il faut vraiment comprendre que ce dispositif, c'est ce qui me permet de faire des choses quand j'avais ni le temps, ni les moyens de le faire avant. Mais là, j'ai un peu réfléchi. C'est l'ouverture du... Alors au départ, j'avais un peu... Vous savez, quand vous êtes compositeur associé, vous, pendant deux secondes, vous prenez un peu au sérieux. Vous la pétez un peu. Je voulais dire avec un quatuor à cordes, machin, le truc, un peu. Puis là, je me suis dit, attends, Raphaël, là ils vont pas t'aimer, quoi. Si tu viens un truc sur Oraison, sur la guerre, la mémoire, et qu'en plus, en quatuor à cordes, et que ça va être un peu solennel, là, il va y avoir peut-être une vague de suicide à Briançon, j'en sais rien. C'est pas cool, en fait. On fait l'ouverture du festival, il faut quelque chose de plus... c'est pas une question de soit festif, d'autant que ça le sera. Moi-même, j'ai pas fait une musique morbide. Il y a des moments très introspectifs, ouais, et tout ouais, ça, mais il y a aussi des moments de joie, d'explosion, parce que cette mémoire, voilà, elle est tout aussi, c'est la vie, quoi. C'est tout ça. Donc, en fait, j'ai renoué avec quelque chose que j'ai peu fait. C'est-à-dire que le quartet piano, basse, batterie et saxophone, c'est le quartet classique. Puisque j'avais envie de faire un quatuor, c'est quoi le classicisme en jazz? C'est ce quartet-là. C'est le quartet de John Coltrane, c'est le quartet de plein de saxophonistes à partir des années 50 jusque, enfin, même dans les années 40. Coleman Hawkins jouait beaucoup dans ce format-là. Donc en fait, c'est utiliser une forme classique avec des musiciens. En fait, c'est des musiciens qui n'ont jamais joué. On n'a jamais joué, nous quatre ensemble, mais on se connaît depuis plus de 20 ans.
Ah ouais,
et chacun dans des projets différents. Donc en fait, c'est renoué. Par exemple, Vincent Lafont, qui est le pianiste qui habite à Arles, qui a joué dans l'ONJ de Daniel Vinec, qui est plutôt un spécialiste des synthés, de l'électronique, mais qui est un pianiste, donc au sens acoustique du terme, remarquable. J'avais joué avec lui il y a 15 ans, et on jouait tout le temps ensemble, on avait même un duo, et puis ça faisait plus de 10 ans qu'on n'avait plus jamais joué, la vie. Voilà, aussi, c'est, quand je parlais de mémoire, je me suis remémoré mes débuts de carrière. Et Pierre Finichel, c'est le musicien avec qui je joue depuis le plus longtemps. Ça fait 25 ans que je joue avec lui. Et Mourad Benhamou, on a tout le temps joué ensemble en différentes choses, mais des choses assez ponctuelles. Et donc lui, c'est le batteur. Et c'est un batteur qui, alors, en termes d'histoire, faut des musiciens qui connaissent, qui répondent à cette demande de mémoire. Et la mémoire dans notre musique, c'est comment être créatif avec notre histoire. Et Mourad, c'est un bon exemple, c'est une encyclopédie de la batterie jazz. Et ça, c'était important pour moi, de trouver des musiciens qui soient très identifiés de jazz, mais qui peuvent justement s'emparer d'une source d'inspiration qui ne l'est pas. Enfin, la Grande Guerre, quoique, le jazz est apparu en France grâce ou à cause de la Grande Guerre. C'est aussi ce truc-là qu'on raconte, en fait. Voilà. Donc c'est la formation classique. Et le but, c'est qu'elle ne soit pas classique dans l'action et dans les faits, mais c'est le format identifié classique. Et c'est une formation où on peut jouer dans un grand festival devant 4000 personnes, chose du bois, mais aussi dans un club de jazz sans micro et complètement acoustique. Donc ça peut aller partout.
On va faire un petit pause musical. Hein.
Avec plaisir.
Vous avez choisi quelque chose pour nous, non?
Ah oui, alors c'est un morceau qui me tient à cœur. C'est l'album Music is My Home, chanté par Laila McCalla. Puis il y a Mario Rampal qui a fait les paroles. Et donc c'est un morceau Sweet River Blues qui, dans cet album, c'est un morceau que je vais faire chanter aux enfants le 21 juin. Si on chantait, ce fameux événement au parc de la Chape. Donc c'est bien finalement si vos auditeurs l'écoutent. Ça permettra de l'avoir dans les oreilles peut-être d'ici là.
D'accord, on y va.
No.
est toujours avec Raphaël Imbert. Quel genre de musique considérez-vous comme la vôtre?
Jazz.
Jazz.
Ouais, moi, je suis jazzman. J'ai pas de... Je trouve que c'est le meilleur moyen de définir la musique que je fais, quel que soit le contexte. D'ailleurs, je fais beaucoup de choses différentes. Je joue avec des musiciens classiques, des musiciens de musique urbaine, de musique actuelle, musique du monde et tout ça. Quoi qu'il arrive, je fais du jazz. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'arrive et qu'on me donne la liberté d'improviser, d'interagir avec ce que j'entends, c'est du jazz.
Et pourquoi c'est venu? C'était déjà dans la famille. Vous avez commencé de jouer le saxophone à partir des 15 ans?
Oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Moi, en plus, je suis autodidacte au saxophone. Ouais. J'ai jamais pris de cours de saxophone. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'oralité, en fait. Donc, c'est le geste de l'oralité. Or, le jazz, c'est quelque chose qui a été inventé pour cela. Pour moi, c'est même un acte de résistance. C'est-à-dire que c'est au moment où, dans la musique occidentale, l'improvisation disparaît totalement parce qu'elle est vue comme un élément perturbateur, comme quelque chose qui permet à l'interprète de pouvoir contredire les desiderata de plus en plus, démiurgiques du compositeur, qui devient le dieu vivant, celui qui doit décider de tout. Donc l'improvisation disparaît dans l'histoire, alors que tous les musiciens classiques improvisaient jusqu'à la fin du 19e. C'était une pratique qui faisait partie. Jean-Sébastien Bach était improvisateur. Mozart, Beethoven, Chopin étaient un immense improvisateur. Paganini était un grand improvisateur. C'était non seulement une pratique courante, mais elle était même nécessaire, elle était utile. Elle a disparu en l'espace d'un laps de temps très court, hein, et toute la problématique de toutes les traditions orales, c'est qu'on les fait disparaître, elles disparaissent pour toujours, parce qu'il n'y a pas justement, il n'y a pas d'écrit. Donc, pour avoir mis l'écrit au-dessus de l'oral, ce qui est quand même la base philosophique de la culture occidentale, c'est de considérer que l'écrit est la plus grande, et d'ailleurs, c'est logique, et c'est normal, c'est pas ça que je remets en cause. L'écrit devient la vérité, et devient l'élément le plus important d'une direction civilisationnelle, à tous les sens, au niveau culturel, littéraire, politique, sociétal et musical, le problème, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'oralité disparaît. Alors, ça peut être l'improvisation, mais ça peut être toutes les cultures orales qu'on a, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, méprisées. C'était la problématique aussi, là, où on parlait d'identité, d'identité culturelle. Même à Marseille, quand vous êtes dans le sud ou à Briançon, quand vous dites je fais de la musique provençale, la moitié du temps, les gens rigolent en disant je trouve ça un peu ridicule. Donc il y a quand même une sorte de mépris qui s'est mis en place, un mépris de, on pourrait dire un mépris de classe, vis-à-vis de tout ce qui était de l'ordre de l'oralité. Et comme par hasard, ça c'est au niveau occidental, mais aux États-Unis, au même moment, les descendants d'esclaves, qui sont des grands musiciens, dont la plupart sont éduqués à la musique classique européenne, Jerry Hall Morton, tous ces musiciens, Fats Waller, tous les musiciens du jazz au départ sont des grands musiciens classiques, sauf qu'ils ne sont pas autorisés à la jouer en concert puisqu'ils sont noirs. Donc en fait, ils inventent quelque chose qui n'est pas... Alors ils inventent des nouvelles formes d'improvisation, radicalement nouvelles, révolutionnaires, mais il préserve en fait un acte qui était vital pour la musique, qui était celui de l'improvisation. Donc moi, à partir du moment où, me mettant dans le fil de cette histoire-là, qui est en plus un fil créatif, c'est-à-dire qu'on peut, hein, c'est justement le rôle de la mémoire, ça, on peut avoir une mémoire vive et être totalement créatif en même temps. C'est ça qui est génial avec le jazz. C'est pas le moment où j'improvise avec un quatuor à cordes sur du Mozart, avec des rappeurs ou des beatboxers sur de la musique urbaine. Enfin, je fais du jazz. Je ne fais que du jazz. Voilà.
Vous venez de recevoir en plus la victoire du jazz 2018 catégorie album inclassable avec Music Is My Hope, présenté lors de l'Altitude Jazz Festival 2018.
Oui, c'est grâce au festival. Je pense.
Bravo.
On va le dire, on va révéler le truc. C'est à partir du moment où on a joué à l'Altitude. Mais en plus, c'est vrai, parce qu'en fait, on a joué en janvier, quand même, à la période du festival, et c'est là où ça commençait à. On avait des infos qui commençaient à se diffuser, comme quoi on était dans les têtes de liste. Voilà, et j'en profite pour remercier à nouveau toute l'équipe du festival. Comme je vous disais, pour moi, c'est les festivals, dès qu'ils auront lieu à l'avenir, où ils inventent une belle forme de festival. Et les victoires, en fait, on ne s'y attend pas. Vous savez, on est toujours. C'est drôle, comment dire? Les attentes qu'on a par rapport à ça. J'ai vécu toute ma vie de musicien en disant ouais, mais de toute façon, je l'aurai jamais. Et puis si je l'ai, je vais faire comme Jean-Paul Sartre avec le Nobel, j'ai refusé, ça va là, parce que franchement, ça dit tout là. Voilà. Et puis en fait, quand vous l'avez, vous êtes bien content. Même quand on vous dit que c'est inclassable, ce qui est assez comique. Surtout par rapport à ce dont je viens de vous parler. Moi, je suis jazzman, j'assume totalement, peut-être. Il n'y a pas beaucoup de musiciens qui assument totalement le mot et l'attitude jazz comme moi. Et c'est pas un reproche, mais il y a beaucoup de musiciens qui font du jazz, mais qui disent non, mais je fais du jazz, je fais de l'électro, machin. Libre à eux, très bien. Enfin, en demeurant, moi, quand je discute avec eux, je dis ouais, ce que tu fais, tu joues des impros avec une basse, une batterie et une boîte à rythme. Tu fais du jazz, quoi. Faut arrêter les conneries. Excusez-moi, hein, je suis un peu en roue libre là, parce que j'ai pas beaucoup dormi, on est en plein travail.
Et vous êtes allé quelque part pour recevoir
ça sème, justement. Ah, juste après qu'on ait su qu'on était compositeur associé avec le Théâtre du Besançonnais. Donc j'allais à la SACEM qui finançait. Ah bah là, c'était un grand moment. Voilà, c'était magnifique. Donc j'ai reçu ce V, le V de la victoire en cristal.
Waouh, wow, voilà. Vous avez ramené aujourd'hui.
Et puis, alors, pour l'anecdote, mon père et mes enfants étaient là. Je les ai amenés à Paris et tout. Et mon petit dernier, Malo, dont on va jouer un morceau que j'ai composé avec lui d'ailleurs le 19 janvier. Parce qu'il est très poète. J'ai un petit garçon de 9 ans. Alors, j'ai un grand qui a 16 ans qui fait de la batterie au conservatoire. Il veut faire son métier. J'ai une fille qui fait du théâtre remarquable. Je suis très fier de mes enfants. Il a carrément dormi avec. Vous pouvez même pas, il était plus fier que moi. Vraiment pour lui, je vous raconte même pas, c'était après, il est allé à l'école, il y a tous ses copains, aux profs, ah, mais c'est génial, c'est vraiment génial. Donc, ouais, c'est
génial.
Et puis quand vous l'apprenez, vous dites, bah non, finalement, j'ai bien bossé, dur pour faire tous ces disques. C'est, le contexte du disque en ce moment, c'est compliqué en plus. D'avoir un label qui suit, qui produit, avec qui on produit les choses et tout, des partenaires, des gens, des endroits où on peut jouer, que ce soit le théâtre, le festival, comme à Briançon. Et c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important que justement, quand je suis arrivé et que j'ai eu le prix, bah, les gens ont su que le programme, on l'a joué dans des endroits qui étaient des endroits atypiques. Mmh. On l'a pas joué pour l'instant, d'ailleurs, je touche du bois, mais normalement, l'été prochain, on va faire des beaux festivals. Vous savez, c'est le genre de festival où on se dit que, comme les victoires du jazz, on jouera jamais là-bas. Bah, là, c'est en train de se passer. Mais avant, il a fallu des gens qui soient courageux et qui prennent des risques. C'est le Théâtre du Besançonnais et l'Altitude Jazz Festival. Et ça, une victoire comme celle-là, c'est la victoire de tout le monde, parce que vraiment, c'est un projet un peu atypique quand même. Hein. On a des guitares électriques, des voix. C'est très. Les gens disent ah c'est pop. Je dis non, c'est jazz, mais le jazz est une musique pop aussi, enfin populaire au sens dans ce sens-là, avec un projet politique, parce que c'est un hommage à Paul Robeson, qui est une grande figure de la gauche alternative des années 20, 30, 40, qui était communiste. Alors, il était un chanteur noir et communiste, ce qui dans les années 40 faisait beaucoup pour les Américains. Et donc c'est un hommage à ce monsieur-là. Donc il y a vraiment. On voit vraiment comment les choses peuvent se cristalliser, sans faire de mauvais genoux par rapport au cristal du V, autour d'une victoire, même si elle est inclassable. J'ai jamais compris pourquoi j'étais inclassable. Mais finalement, ça me va bien. Je trouve que ça me va bien. Voilà.
Oui, on peut parler de votre carrière musicale, hein, qui est très réussie et remplie. Quels sont les événements phares qui vous ont marqué le plus pour arriver où vous êtes aujourd'hui?
Voilà, il y en a tellement que vraiment c'est une histoire de rencontre, de chance, de ratage aussi, hein, parce que vous dites qu'elle est très réussie, très remplie. Je vous remercie, mais moi, parfois, je me réveille le matin en me disant merde, j'ai raté. Oui, non, mais oui, finalement, on regarde. Bah, voilà, si on regarde la page Wikipédia, d'ailleurs, il y a un monsieur qui m'a fait une page j'ai une page Wikipédia qui va être trois fois plus grosse que celle d'Archichep. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Donc d'ailleurs, une rencontre incroyable, c'est avec Archie, par exemple, la chance de pouvoir jouer dans son Attica Blues Big Band. Mais c'est aussi, je pense, au tout début, quoi. En fait, c'est un voisin. Moi, j'habitais à la campagne, au nord d'Aix-en-Provence, vraiment à la campagne à Trévarès, là, une belle colline boisée. Et je me destinais absolument pas à être musicien. Donc, ma passion, c'était les sciences naturelles, l'écologie. Je voulais vraiment en faire mon métier, plutôt la zoologie, l'ornithologie, l'entomologie, toutes ces choses-là. Et il y a un voisin qui s'installe. Alors, un voisin, c'était à la campagne, c'était à 600 mètres, mais j'entendais un son bizarre. Il faisait du saxophone, il avait mon âge. Et on a commencé à dialoguer et tout ça. Puis un jour, je lui dis, c'est super cet instrument, est-ce que je peux essayer? Elle dit, ouais, je veux bien que tu essayes, mais. Quand même, ça, tu vas voir, c'est difficile. Et je prends le saxophone, je le mets en bouche, et en fait, c'est comme si j'en avais fait toute ma vie. Et d'ailleurs, il était assez dégoûté, mon copain, parce que ça faisait 5 ans qu'il en faisait, et non, moi, j'ai dit, mais c'est génial, ce gars. Parce qu'en fait, on vous ment, parce que le saxophone est un instrument facile. Il faut le dire. Pour les gens qui veulent commencer le saxophone, c'est ce qui est difficile au saxophone, c'est de trouver son son. Compliqué. Ouais, le saxophone, le génie d'Adolphe Sax, c'est d'avoir inventé un instrument avant qui peut être fait par des gens qui sont pas doués pour la musique. C'est vraiment le génie d'Adolphe Sax. Oui, c'est très simple. C'est très complexe techniquement, mais la complexité technique permet la simplicité pour celui qui le joue. C'est-à-dire pas pour rien, excusez-moi, si les militaires sont emparés d'instruments parce qu'il est très facile à jouer, donc tout le monde pouvait le jouer. Puis surtout, on peut jouer sous la pluie, ce qui n'est pas le cas de la clarinette, justement. Quand on fait des défilés, ce genre de choses. Donc ça a eu d'ailleurs aux grandes dames d'Adolphe Sax, qui savait, lui, qu'il avait fait un coup de génie avec cette invention-là. Il avait plus de 150 brevets, hein. Mais celui-là, c'est celui qui a marché. Eh ben, c'est les militaires qui s'emparent. Et donc, moi, je prends ce saxophone, je joue, je tanne mes parents pour m'acheter un saxophone d'études, ils m'en achètent. Et là, d'ailleurs, c'est un moment où ma vie scolaire et pas mon bac d'ailleurs, j'ai abandonné avant le lycée et tout ça. Enfin, avant le bac, en première.
Vous avez bien
fait, hein. Peut-être, je peux dire ça aussi. Je suis pas un bon exemple académique, mais quand même, parfois, ça vaut le coup de faire des choses un peu hors des sentiers battus. Et je me suis mis à faire du saxophone toute la journée, quoi, vraiment. Donc, c'est vraiment, cette rencontre est déterminante. Et pour la petite anecdote, j'ai joué à Lyon aux Nuits de Fourvière l'année dernière, et je vois un monsieur arriver, qui avec un saxophone sous le bras. Il me dit, tu te rappelles de moi? C'était mon copain, que j'avais pas vu depuis 25 ans.
Non.
Et qui avait le saxophone, qui est le premier saxophone que j'ai touché. Il me l'a ramené à Paris à un concert, j'ai joué tout le concert avec le saxophone.
Ça c'est un des événements qui a mis en place peu votre carrière.
Ça a
carrière.
Changé ma vie. Hein. Ouais.
Conseil pour des musiciens débutants qu'on a ici?
J'en connais pas mal en plus, parce que comme je travaille beaucoup avec Damien, avec le Passport Quartet aussi, d'ici, qui est vraiment un super groupe et des amis vraiment avec qui j'aime beaucoup travailler. Ils connaissent bien mes conseils. Hein. C'est déjà se faire plaisir, travailler, c'est la moindre des choses. Même si le travail peut être parfois mal dirigé, hein. On peut travailler des heures mal. Un conseil, c'est il vaut mieux travailler très bien les bonnes choses moins que travailler mal longtemps. Ceci étant, quand je dis ça, je connais pas beaucoup de gens qui travaillent longtemps. De toute façon, il faut qu'ils travaillent. Donc voilà, c'est le conseil que je donnerai aujourd'hui, ce matin, aux musiciens débutants.
Bon, Raphaël, il reste pas beaucoup de temps, là, 5 minutes. Aimez-vous patinage?
Ah là 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 là. Comme je vous disais tout à l'heure, les sports de glisse m'effraient.
Parce que c'est ce week-end, c'est gratuit au parc de la Chape.
Ah, bah très bien. Je viendrai regarder. Moi, j'ai tellement peur de me péter un truc que.
Ouais, j'imagine. Ah, ouais.
Il donnera à manger au canard.
Donnera à manger au canard. Ou, voilà. Ouais, enfin, je veux surtout pas me péter un truc. Et puis j'aime pas ça. J'essaie deux fois. Je vois des skis, je tombe déjà avant même de les mettre. Donc non, je peux pas.
Et pas trop froid ici pour
ça vivre. Va, j'aime bien. Ça va. J'aime bien le froid. Moi, ça m'a jamais trop dérangé. J'aime bien ça. C'est un vrai hiver.
C'est l'air moment, sec ici.
Voilà, c'est très bien. Ça, voilà. Ouais. Tout va bien. Non, j'adore.
Merci beaucoup, Raphaël.
Ouais. Merci à vous.
Bon festival. Hein. C'est le 19 janvier à partir de 19h au Théâtre du Briançonnais. Avec Raphaël, bien sûr. Et c'est parti pour 2 semaines du jazz avec l'Attitude Jazz Festival. Un grand merci.
Merci. Merci
beaucoup. Vous êtes bienvenue convivulé. Hein. Bon, on va souhaiter une très bonne journée à tous et à toutes. On va finir avec un morceau, Raphaël. Vous voulez lequel? On a dit Reverend King.
Pourquoi pas, oui, ce sera un peu plus méditatif. Ça a été enregistré dans une église avec de l'orgue et un quatuor à cordes. Et c'est un projet qu'on va jouer en traversée dans une petite chapelle de la région du Briançonnais. Mm-hmm. Une petite chapelle, l'abbaye du Boscodon, c'est pas une petite chapelle d'ailleurs. Donc comme je vous disais, c'est vraiment génial de jouer là-bas. Donc ça, c'est en octobre prochain, en tant que je me souvienne. Et donc ça permettra à vos auditeurs de se faire une idée de ce projet autour de Coltrane et de Bach. Mm-hmm.